Voilà, chers amis, c'est notre dernier entretien de toute l'année. C'est un peu comme les bons repas. Il paraît que les bons repas se terminent toujours par un bon fruit. Des kiwis, on ne sait pas trop. Les sœurs comprennent. Donc je voudrais vous parler des fruits de l'abandon au bon vouloir de Dieu. Je vous avoue, chers amis, que, et c'est très sincère, hein, que lorsque j'ai écrit ce livre, qui est en fait une retraite, eh bien, j'ai essayé de pratiquer ce que j'ai enseigné. Et ce fut extraordinaire comme aventure. Je m'explique. Je savais que je devais écrire sur quelque chose sur François de Sales, autour de la sérénité, mais vous voyez bien, après, autre chose est... Mais c'est quoi les chapitres ? Et donc, je suis avancé sans savoir ce qu'allait être le prochain pas. Et c'est extraordinaire. Mais j'ai compris aussi pourquoi il y a peu de gens qui avancent sur l'abandon, le chemin de l'abandon, parce que cela suppose de marcher sur l'eau, de quitter les sécurités. Et c'est très dur de quitter les sécurités. J'ai expérimenté ce que François a dit. Le Seigneur y pourvoira. Je vous signale que pourvoir, c'est l'étymologie de providence, providere. Le Seigneur y pourvoira. Si les considérations de votre faiblesse vous travaillent, jetez-vous en Dieu et confiez-vous en lui. Ça, c'est important aussi ce que dit François de Sales. Vous avez un sentiment de votre faiblesse. Vous avez un sentiment de votre impuissance. Même chose que moi j'ai ressenti pour écrire cette retraite. Comprenez que votre sentiment de faiblesse, d'incapacité, fait partie de l'abandon. Et que Jésus va vous exagérer votre faiblesse et votre abandon. Pourquoi ? Ben autrement, vous allez travailler à partir de votre force. Et il s'agit de travailler, d'apprendre à travailler à partir de Dieu, à partir de sa force. Donc arrêtez de dire à vous-même... « Oh, mais je ne me sens pas capable. » Mais c'est parce que tu ne te sens pas capable. C'est parce que cela te paraît impossible que le maître de l'impossible va pouvoir agir. Chers amis, si vous touchez du doigt une impuissance, une limite, chérissez cela. Cela fait partie du plan de Dieu. Il veut que tu quittes tes manières de te faire sainte, tes manières de t'élever en Dieu, ta manière d'être du Christ. C'est une chose aussi que je remarque beaucoup dans les âmes, pour l'avoir remarqué chez moi d'abord. Nous avons tous et toutes un plan de carrière spirituelle, de ce que doit être la vie religieuse pour des religieuses, la vie de marié, si vous êtes marié, la vie de célibataire au cœur du monde, selon le cœur de Dieu. Et moi, la grâce qu'il m'a faite, j'y reviens. La seule grâce que j'ai eue, c'est d'avoir été souple, de croire qu'il était là. La grande grâce de ma vie, c'est quand il a mis par terre mon mode de fonctionnement, 15 ans après avoir été ordonné. Il veut tous et toutes nous refaire, chers amis, selon son plan à lui. Alors la difficulté est la suivante, vous voyez bien, c'est la période où, comme Orangina, secouez-moi, dit la pub. Hein. C'est-à-dire, c'est la période où il dit, bon, Joël, c'est bien gentil, était généreux pour moi. À l'époque, je vous le redis, je faisais 2 heures d'oraison par jour. Mais c'est ta construction, c'est ta manière de faire, c'est ton projet. Je vais un peu te secouer. À l'époque, je me sentais comme un pommier, je peux vous dire. Mais, oh là là, que je bénis le Seigneur de m'avoir secoué. Revisiter, chers amis, parce qu'on est dans la même barque chacun. Revisiter les périodes où vous avez été secoué déjà. Peut-être que si vous êtes vous aussi un peu souple, vous avez vu les fruits qui se sont sortis de telle épreuve parce que vous avez laissé Dieu prendre le volant. Le plus grand drame, je vais vous dire. Le plus grand drame, et cela guette les prêtres, les religieuses, les laïcs au cœur du monde, c'est quand on reste, par désir de bien faire, les mains cramponnées sur le volant. Qu'il est difficile de passer de la maîtrise à la démaîtrise par Dieu. En tout cas, je vous le dis, chers amis, ce que j'ai dit à cet évêque que je vous partageais ce matin, ce n'est pas une formule comme ça, je ne sais pas quoi, pour paraître original. Il y a une vraie, vraie, très grande joie. La grande joie vient quand on ne s'appartient plus. Dans la vocation qui est la tienne. Si tu es marié, ne quitte pas ton mari, s'il te plaît, pour rentrer dans un monastère, ou toi, mari, quitte ta femme pour aller habiter sous les ponts. Dans la vocation qui est la vôtre. Premier point, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Bon, vous savez quelque écho d'où ça vient, hein? Vous vous rappelez Sylvie Buisset? Ou toutes les chants de Thérèse qu'on a eus il y a quelque temps? Sylvie Buisset, ça donnait ceci. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Ça vous dit quelque chose, certainement, vous avez entendu ça. Donc ça vient de Thérèse. Dans un couple, ce qui fait qu'il y a un amour très grand, c'est quand il y a au fondement la confiance et la remise du moi à un autre. Et que l'autre en question se remette et s'abandonne entre les mains de l'aimé. Quand il y a ça, il y a un grand amour. Ça existe, vous allez me trouver pessimiste, ça ne court pas les rues, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que quand j'entends tous ces gens à l'intérieur de l'Église qui veulent le mariage des prêtres, mais moi je voudrais rencontrer beaucoup de mariés qui soient... enfin, qui donnent envie, quoi. c'est fou. Alors bien sûr, c'est un peu taquin ce que je dis. Bien évidemment que des beaux couples, ça existe, bien évidemment. S'il en est ainsi, chers amis, au niveau humain, qu'est-ce que ça va être au niveau divin? C'est-à-dire que Dieu est l'être qui désire le plus se donner à toi. De quoi souffre Dieu? D'avoir des gens qui sont sur la terre et qui ne sont pas réglo? Dieu souffre, je vais vous dire, c'est plus profond que cela. Il souffre de rencontrer si peu d'âmes qui soient comme des terres d'accueil. Quelque part, Dieu se moque un peu de nos péchés. Il cherche une chose principalement. As-tu soif de moi, car je suis ta rosée, et je ne me donne qu'à la mesure de ta soif. Une âme qui a très soif, Dieu peut en quelque sorte se soulager dans cette âme. Vous comprenez que ça vient un peu guérir les fausses images de Dieu, d'un Dieu un peu radin, qui en garderait sous le coude. François de Sales, s'appuyant sur saint Augustin. Ô Dieu, Vous nous avez créés pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. Mais qu'ai-je au ciel sinon vous, ô mon Dieu? Et quelle autre chose puis-je vouloir sur la terre? Oui, Seigneur, car vous êtes le Dieu de mon cœur, mon lot et mon partage éternellement. Excellence de l'abandon. Ce qui fait l'excellence de l'abandon spirituel, c'est deux choses qui sont absolument liées. Ça réalise le bon branchement. Et ce bon branchement provoque l'efficacité du jaillissement de la source. Bon branchement, tout d'abord. Je sais bien que ce n'est pas l'heure de faire du jardinage actuellement, mais bon, reprochez-vous quelques mois plus tard, quand vous allez faire votre jardinage. Si vous branchez votre tuyau d'eau sur l'arrivée de gaz pour arroser vos roses, elles vont être gazées, mais pas tellement arrosées. Si donc vous branchez, c'est là que se trouve ton arrivée, ton tuyau. Si tu le branches sur ton propre cœur, tu n'auras que toi, et ce sera limité et pécheur. Si tu te branches sur le monde, tu n'auras que le monde. Mais si tu te branches sur Dieu, tu réalises alors le bon branchement. Jean 4, 14. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le voilà le bon branchement. Étant donné que le bon branchement est réalisé, il y a une efficacité, c'est-à-dire que l'eau passe à flot. Comme dit Jésus à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Vous pouvez choisir d'être un catholique réglo, et Jésus vous aimera. Vous pouvez franchir une autre étape. Qui est quoi? Ce bon branchement qui permet à Dieu, en quelque sorte, de se soulager tellement il a trop de réserves d'amour. Quand il rencontre une âme, même pauvre, qui s'ouvre à lui, qui a soif, Jésus dit « Je peux enfin me soulager », c'est-à-dire me donner. L'eau que je lui donnerai, poursuit le verset de Saint Jean que nous venons de prononcer, deviendra en lui source jaillissant, d'eau jaillissant en vie éternelle. Cela explique la fécondité d'un François de Sales. La souffrance de François de Sales, c'est la vôtre. Aujourd'hui, ça s'appelle stress. Sauf quand vous êtes à la retraite. C'est là que vous en avez encore davantage, parce qu'il paraît que c'est les plus occupés, n'est-ce pas? La presse pour François de Sales, c'est qu'il était absorbé par le courrier. Que faisait-il? Il recevait tous les courriers et il les répondait un à un, mais toujours branché sur la source, pas comme nous. Nous, on écluse. En fait, on veut se débarrasser des choses à faire. Lui les prend une par une. Et il dit, je fais tout ce que je peux, mais sans aucune tension. Il y a la presse qui me presse, mais je ne veux pas être pressé et oppressé. C'est un vrai secret de vie, ça, ce que je vous dis là. Il les prend une à une, et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille beaucoup plus vite. Parce que quand tu travailles dans la tension, c'est parce que c'est toi qui veux écluser les choses. Quand tu travailles dans la disponibilité à l'esprit, si tu es vraiment et tu demeures un enfant, alors il te dira quoi écrire, même au percepteur. Il y a un jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, je voudrais rester discret. Il y a un jour, je travaillais avec des éditeurs et puis il y en a un qui me mettait un peu la pression. Mais trop la pression. Parce qu'il croyait que moi je travaillais comme ça avec des bonnes idées qu'allait me dire quelqu'un. Moi j'ai aucun projet. J'attends. Et quand c'est l'heure, j'obéis. Et donc, cet éditeur m'envoie tout un tas de listings de thèmes à travailler. Bon, je me suis dit, encore un qui n'a rien compris, quoi, le pauvre. C'est un chef d'entreprise, quoi, en gros. Hein. Mais il n'est pas dans l'esprit, quoi. Ils ont beau avoir des éditions catholiques, je peux vous dire. Et puis, à un moment, je dois lui répondre, mais il y a un piège dans son propos. Qu'est-ce que j'ai fait ? Jésus, je sens le piège. Je me sens incapable de lui répondre. Je sens que je vais faire des gaffes. À nouveau, l'impuissance, l'incapacité. Et j'attends volontairement un peu, car faut attendre. J'attends quoi ? Ce que disait le curé d'Ars quand il a voulu discerner les apparitions de la Salette. Il avait une belle formule : une nuit, une messe. Un peu de temps pour ton émotion, une nuit, une messe, le spirituel. Oser appeler Dieu. Et donc j'ai attendu 2 ou 3 jours, et à un moment ça a été très net. Mais voyez bien, il n'y a pas de guili-guili sous les aisselles, vous n'avez pas de vision, mais vous sentez, vous devez obéir. J'ai répondu, et j'ai été hors de prise de ce monsieur qui voulait réaliser une prise. J'aurais pu fonctionner comme avant. Truc à traiter, voilà, on fait ça tout de suite. Bah, vas-y, fonctionne comme un chef d'entreprise. Dans l'Église, on n'est pas dans une entreprise. Il faut rester pauvre. Et c'est lui le maître. Et s'il y a peu d'œuvres de Dieu, et si ça se casse la figure à vitesse grand V, ça vient de là. Et le fait que ça se casse la figure, c'est la providence qui organise cette chute. Pourquoi ? Pour rendre à nouveau l'Église épouse et pauvre. Je ne parle pas de pauvre de pépette, hein, je peux vous dire. Les grands discours sur l'histoire que l'Église soit pauvre, ce n'est pas ça le problème. C'est la pauvreté intérieure. En gros, être dépendant, lui demander en tout. Être conscient que sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, 5. Donc, l'excellence de l'abandon, c'est que ça fait le bon branchement, ça réalise l'efficacité. Moi, je le vois dans ma propre vie. Hein. Je le dis sans gêne, puisque je vois bien que ça ne peut pas venir de moi. Toutes ces retraites avec un calendrier pris 2 ans à l'avance. Qui est-ce qui fait ça ? Mes compétences intellectuelles ? Il faut arrêter de rêver. Quand on laisse faire Dieu, Dieu fait. C'est parce que tu aimais trop les mains que Dieu est obligé de retirer les siennes. Ça va produire quoi ? Ça va produire un décentrement du moi. En peu de mots, saint François de Sales décrit la révolution, je n'hésite pas à prononcer le mot, copernicienne, que nous sommes tous invités à vivre. Malheureusement, peu la vivent. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Il dit, qui est bien attentif à plaire amoureusement à l'amant céleste, n'a ni le cœur, ni le loisir de se retourner sur lui-même. Plus j'avance, plus je vois cet autre fil rouge, la vie dans l'esprit, la vie dans la dépendance à la providence, réclame un décentrement du moi. Nous n'imaginons pas à quel point, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes extrêmement centrés sur nous-mêmes. Notre ressenti, notre maîtrise, notre vouloir. Et je vous dis, révolution copernicienne. Il va falloir donc tout un travail de dégagement du moi. Écoutez, très beau dialogue, et mes sœurs, ça va certainement vous parler. À la galerie du côté d'Annecy, la communauté est naissante des visitandines. Il y a des gens d'un certain milieu, et puis il y a aussi des gens extrêmement simples, de catégories sociales très très. Jeanne de Chantal est là. Il y a récréation. Hein, ça doit vous parler, mes sœurs. Et Jeanne de Chantal demande: mes sœurs, où iriez-vous si l'on vous permettait quelques pèlerinages? Comme ça. Enfin, ma mère, on est cloîtrée. Où est-ce que vous iriez si on vous permettait quelques témoignages? Alors, il y a une sœur qui dit: oh, moi, je voudrais aller à Rome. L'autre: à Notre-Dame de Lorette, répond une autre. Puis il y a une sœur, très simple d'esprit, Anne-Marie Rosset, qui est là. Et vous, sœur Anne-Marie, interroge la mère, où voudriez-vous aller en pèlerinage? Écoutez la réponse, c'est du lourd, c'est du... Pour moi, ma mère, le grand voyage que je désire, ce serait sortir de moi-même pour aller à Jésus-Christ. Elle n'a pas le milieu social, elle n'a pas la théologie, elle n'a peut-être même pas l'intelligence, mais alors au niveau de l'intelligence de la foi, waouh! Décentrement de soi pour se centrer sur Dieu. Et tout est lié, vous voyez, c'est lié à l'enseignement de ce matin. Les histoires de croix que je vous partage dans ma vie, c'est pour incarner tout ça. Adaptez ça après pour votre vie. Mais c'est fou, il faut arriver à cet âge-là pour commencer à comprendre le béaba. Que nous, ce qu'on rejette à la poubelle, les petits croix, les ennuis, les déconvenus, tout ça, Dieu s'en sert, mais au millimètre, pour m'apprendre à me décentrer de moi-même. Et maintenant, j'ai compris ça, vous comprenez ? Je suis beaucoup plus souple. J'arrête de dire pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Ce décentrement est justement pour se centrer sur Dieu. Un des grands maîtres spirituels de Saint Jean de François de Sales et Jean de la Croix, il dit : le centre de l'âme, c'est Dieu. Et qu'est-ce que c'est ce décentrement pour se centrer sur soi ? C'est quitter la zone périphérique de notre être. La volonté propre, qui n'est pas très propre. Le ressenti, l'émotionnel, le feeling. Pour entrer dans la pure foi, descendre en soi, puisque en soi, dans le centre, se trouve Dieu. Et François de Sales, cela lui fera dire qu'il est donc bienheureux, le cœur qui aime Dieu sans autre plaisir que celui de plaire à Dieu. Toujours dans ses fruits, l'âme abandonnée, l'âme décentrée, va devenir de plus en plus amoureuse de Dieu. Et comme la valeur numéro un de l'être, puisque nous sommes un être créé par amour et pour l'amour, comme on devient de plus en plus amoureux, et sans forcément qu'il y ait du senti, Arrêtez de penser, ah oh, oui, mais un tel, ah oh, oui, mais il doit sentir. Mais non, il sent rien. Mère Teresa ne ressentait rien. Et pourtant, c'est une hyper amoureuse. Dès qu'on entend ça, on pense ressentir. C'est très frappant chez les gens. C'est un amour, c'est une âme devenue amoureuse, mais purifiée du captatif et du ressenti. Voilà pourquoi, mes sœurs, vos heures d'oraison sont extrêmement importantes. Parce que généralement, je suppose que ce n'est pas nirvana tous les jours, non? Et ce sevrage dans votre oraison, c'est pour que vous vous décentriez de vous-même, pour apprendre à faire oraison pour lui faire plaisir, pour que Dieu soit content. C'est effroyable comment nous venons à l'oraison pour être bien. Là est le problème. Là est le problème. Et on ne vient pas pour que Dieu soit bien. Moi, mon moi. Et des gros câlins, s'il vous plaît. Et s'il n'y en a pas, on sort de l'église. Il n'y a pas plus amoureux qu'un saint. Écoutez, François. Le cœur indifférent, traduisez. Le cœur dégagé du moi. Le cœur indifférent n'aime pas les choses que Dieu veut. Ça veut dire que des fois, il va nous proposer des choses difficiles à vivre. Au niveau de la sensibilité, on ne va pas les aimer. C'est normal, tu es normal. C'est normal qu'au niveau de la sensibilité, tu ne les aimes pas. Écoutons la suite. Le cœur indifférent n'aime pas les choses que Dieu veut, mais il aime la volonté de Dieu qui aime ces choses. Et qui veut que je les vive. C'est pourquoi, entre plusieurs choses conformes à la volonté de Dieu, l'âme choisit, quoi qu'il puisse lui en coûter, celle où la volonté de Dieu est le plus manifestement présente. Le bon plaisir de Dieu dans l'ici et le maintenant est la règle suprême d'une âme indifférente et amoureuse. Avançons, autre fruit, pas des moindres. Et ça, je peux dire que je commence à le vivre, à en toucher quelque chose. Vous allez expérimenter une plus grande légèreté intérieure qui ne va pas vous quitter. Vous aurez des croix comme tout le monde. Je vous ai dit, vous en aurez même peut-être plus que d'autres, parce que si vous vous livrez à Dieu, il est indéfectiblement, inséparablement, le crucifié et le glorifié. Si vous vous unissez à Dieu, un des critères, c'est la place de la croix. Alors je sais très bien, je ne suis pas très à la mode pour le dire. J'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité de l'enseignement des saints et de l'Écriture, pas les trucs à la mode. Qu'est-ce qui fait qu'on est lourd ? Que la vie nous paraît lourde, pesante, parce qu'on veut être à la fois la créature et sans s'en rendre compte, le créateur. Deuxièmement, pour être, comment dire, une autre facette. Vous comprenez qu'une âme qui est tellement polarisée par la volonté de Dieu, qui est le socle, seul socle solide, elle va moins coller à l'écorce des événements. Elle sera beaucoup moins par terre et rapidement par terre dès qu'il arrivera un problème. Jésus le dit dans l'Écriture. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui parmi nous ne peine pas. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous procurerai le repos. Pourquoi on n'expérimente pas le repos ? Parce qu'on n'entend pas les premiers mots de Jésus. On n'entend pas « venez à moi ». On vient, mais à soi-même. On ne vient pas à lui dans le décentrement. ne peut pas y avoir de repos. Tout va vous paraître, c'est faux ce que je dis, tout va vous apparaître dans la vérité beaucoup plus simple. Votre vie qui vous paraît compliquée et lourde va vous paraître beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que dans la première partie de ta vie, tu travailles en vivant, en enfonçant les choses, comme on disait dans le sport, à force. C'est le meilleur moyen de te casser une patte. Quand tu travailles dans l'esprit, tu ne travailles pas tout seul, tu travailles à deux. Et en plus, celui avec qui tu travailles, c'est Dieu. Et en plus, Dieu est toujours sur le chantier avant que tu te sois levé. Car lui, il ne dort pas. Il lit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, « Mon Père et moi sommes toujours à l'œuvre. » Je vais vous donner un petit proverbe du Rwanda, d'où j'arrive. Enfin, j'arrive, ça fait un petit peu longtemps. Très beau proverbe du Rwanda. Le pain que tu vas manger aujourd'hui, Dieu a passé toute la nuit à te le préparer. Vous comprenez, vous arrivez sur le chantier, vous osez croire qu'un autre travaille avec vous, avant vous, c'est la providence. Et vous arrivez à 8 heures, et lui, de toute façon, il n'a pas dormi de la nuit, il a bossé. Alors vous pouvez trouver que c'est gentiment poétique ce que je raconte et que ce n'est que de la poésie. Mais quand vous y entrez, moi je vais vous dire, mais c'est ce que je vis. L'écriture des livres, quand j'entends les gens me dire, bon ça m'amuse si vous voulez, mais à la fin ça m'amuse plus. Du genre, oh mon père, qu'est-ce que vous devez travailler? Comme si j'avais passé mes nuits à travailler. Mercedes m'avait enseigné ça. Elle m'a dit, vous devez écrire les livres comme si vous étiez en vacances. Pas au sens où vous allez buller, mais au sens où vous allez laisser Dieu être Dieu. Et vous allez être tout surpris. Il ne va pas vous demander de travailler par force, parce que vous n'allez pas être comme ça à vous emparer du ciel, vous allez être comme ça à recevoir les choses du ciel. Je ne comprenais pas à l'époque ce qu'elle voulait dire. Maintenant, non seulement je le comprends, mais j'en vois les fruits. Vous allez travailler beaucoup plus vite et vous allez fatiguer moins. Quand je dis vite, ce n'est pas très exact. Ça va vous couler entre les doigts. Parce que vite, ça veut dire tension. Et ça, c'est surtout pas recommandé par notre ami François de Sales. La précipitation, il est absolument contre. Vous allez voir que certaines situations se résolvent. Vous êtes, écoutez, si ça vous choque tout ça, on va passer par un orthodoxe, comme ça le produit est plus vendable. Parce que dès qu'on fait appel à d'autres confessions, les gens ils sont en train d'écouter, comme s'ils avaient le droit, ou l'hindouisme, comme s'ils avaient le droit de parler, et tout était vrai. Le patriarche Athénagoras dit, pour celui qui vraiment vit en Dieu, il va voir des multitudes de petits miracles, et de petits miracles que lui seul sera capable de discerner au quotidien. Et vous le testerez parce que vous y mettrez moins les mains et vous direz à Dieu, dis-lui ce que je veux lui dire. Moi, je serai un éléphant dans un jeu de porcelaine. Beaucoup, beaucoup de gens, ils voient un problème, ils sortent leur bazooka, faut solutionner ça tout de suite. Ben vas-y, fais, vas-y. D'abord, c'est très fatigant. Mais après, c'est pas la peine de venir me demander que Dieu prenne le volant. T'es pas cramponné, t'as un cadenas. Écoutez François de Sales, parce que c'est ce qui vivait François de Sales. L'écoulement d'une âme en son Dieu est une véritable extase. L'âme franchit, écoutez bien ça, ses propres limites. Tu as dans ton âme des limites que tu as fixées sur tes capacités. Et sur les capacités de Dieu, ce sont les mêmes, car tes limites sur les capacités de Dieu font que tu t'es limité toi-même. Moi, je n'aurais jamais pensé être capable de faire ce que je fais, à cause d'une petite blessure d'enfance ou qui m'avait tétanisé. Vous inquiétez pas, j'ai pas été agressé. Je suis dans une famille qui s'aime, mais chaque enfant réagit de manière différente. On s'est tous fixé d'énormes limites parce qu'on a fixé des limites à Dieu. On l'a enfermé dans des petites cases. C'est pas moi qui dis ça. C'est Anna et Mr. God de Finn. Il ajoute, l'âme franchit ses propres limites, elle est absorbée, engloutie par son Dieu. Ceux qui ont expérimenté cet excès de l'amour divin qui reviennent à eux, ne voient plus rien parmi les choses de la terre qui puissent les contenter. Une chose est certaine, mes sœurs, mes frères, c'est que quand vous avez commencé à entrer dans ce style de vie, c'est véritablement un style de vie, c'est le vrai en fait, c'est ce qui devrait être le nôtre. Vous voyez en contre-jour la manière dont vous avez fonctionné avant. Et vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible que j'ai pu fonctionner autrement. Et vous voulez surtout pas revenir en arrière. Avant, c'est de la mort. Là, c'est de la vraie vie. Ça va vous donner une assurance, une très grande sécurité intérieure. Vous savez, c'est Benoît XVI, notre cher pape émérite, dans une interview avec un journaliste allemand converti, Peter Seward. Il dit que la foi, étant donné qu'on s'enracine dans le transcendant, en Dieu qui est le vrai, cela crée une sécurité intérieure extrêmement puissante. Je voudrais visiter parmi vous les âmes qui disent parfois qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes, qu'elles se sentent insécurisées. Alors on a ça, par exemple, en paroisse. Mon père, je me moque pas, hein, j'ai pas trop confiance en moi. Vous connaîtriez pas un thérapeute? Ben, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on croit à Jésus, thérapeute? Je crois que le problème de confiance en soi n'est pas psy, point. Il est pneumato-psy. Je m'explique. Tu peux avoir vécu des choses difficiles dans ta vie, dans ton enfance, qui ont fait que, après, des années après, tu manques de sécurité, de confiance en toi. J'entends. Mais sache que la vérité des vérités, c'est que Dieu a sur toi une énorme, infinie confiance. Et donc, en vivant l'abandon à Dieu qui a confiance en toi, il va comme distiller intérieurement, progressivement, la propre confiance que Dieu a en toi va devenir tienne. C'est l'expérience de Saint-Pierre, le premier pape. C'est toi là, Jésus, qui marche sur l'eau? Si c'est toi, c'était pas un fantôme? D'accord, descends, c'est ton destin, qui lui dit Jésus. Vous vous rappelez les inconnus, non? Bon. Donc il descend du bateau. Il commence à se décramponner un bras. Ça va encore? Bah, parce qu'il reste encore une branche. La difficulté, c'est que quand tu t'enlèves les deux bras, non, c'est pas encore ça, c'est quand tu fais un pas. Et là, tu dis, ok, il est à quelques mètres, mais moi, je suis à quelques mètres du bateau. Et là, Saint-Pierre ne regarde plus Jésus, il regarde ses pieds. C'est-à-dire, il quitte la foi, il entre dans le doute, et le doute le fait couler. Tu as là ton histoire, quand tu coules, quand vous dites parfois, mon père, j'ai la tête sous l'eau, j'arrive pas à émerger, tous ces trucs-là. C'est ça. Et ce qui est très beau, c'est que Jésus lui dit, homme de peu de foi, hop, c'est la main de Dieu qui sécurise Pierre. Vous obtiens, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des psys, tout ça, des thérapeutes, si ça vous fait du bien, c'est parfait. Mais réalisez-vous la puissance que réalise la foi, la prière par exemple. Et puis n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, Catherine de Sienne, on obtient une vertu par son contraire. Comment allez-vous obtenir la sécurité? Moi j'en ai fait les frais toute ma vie, par des sentiments d'insécurité, où j'ai à chaque fois injecté de l'abandon à Dieu, et à la fin, Dieu, j'ai expérimenté combien il s'abandonne à nous, et il nous donne une force. Alors je l'ai expérimenté tout récemment en allant au Chili pour aller prêcher dans des trucs avec une église qui a explosé. Je peux vous dire que arrêtez de vous inquiéter sur l'église de France. Hein. Je peux vous dire que là-bas, je pars en vrille là-bas, hein, je peux vous dire. Hein. 38 prêtres partis depuis 2018 dans le seul diocèse de Santiago. Et là, voilà. Mais ça ne va pas dire que je n'ai pas eu des peurs. Et à chaque fois, je m'abandonnais. Voilà, je m'abandonnais. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à voir la force, la sérénité. Oh, vraiment, je vous assure, les amis. Allez-y, jetez-vous à l'eau, comme Pierre. Ça vaut trop le coup. Mais par contre, ce qui est dur, c'est que je ne peux pas vous proposer une seule expérience. Puis ça va être réglé, quoi. C'est des multiples expériences d'abandon qui, après, vont tellement t'assouplir que tu vas entrer là-dedans. Ça va devenir ton style de vie, quoi. François de Sales. Entre les bras de leur maman, les enfants vivent en assurance et savent que rien ne pourrait leur nuire. Pourvu qu'ils tiennent sa main, alors vous, mes amis, tendez la main à Dieu. Et ne vous épouvantez point, car il vous sauvera et vous protégera contre tous vos ennemis. Voyez, je pense que dans l'Église, on ment aux gens. Quand on leur dit qu'il suffit de faire une session de guérison intérieure, on va vous faire une anamnèse et ça va être réglé. Je pense que je caricature un peu les choses. Mais tout de même, je suis désolé, c'est quasiment dans le quotidien que vous recevrez le plus de guérison intérieure. Par les multiples petits ennuis, je ne nie pas qu'une prière puisse faire, enfin, est incapable de faire du bien. Je vous dis que vous recevrez ceci dans ce type d'expérience, vous recevrez cela dans le quotidien. Et là, il y a mensonge. C'est des sortes de guérisons par procuration, sans que je m'y investisse profondément et personnellement. C'est faux. C'est faux. Vous allez expérimenter un plus grand repos. Et ça vraiment, je le vis aussi. Oh, vous vous rappelez d'un slogan pour une promesse politique? Travaillez plus pour terminer la suite. Oh, je vois que vous avez vos classiques. Donc vous rappelez, travaillez plus pour gagner plus. Avec Jésus, ce n'est pas de la poésie. Vous allez, et là je pense que je devrais être président avec un truc comme ça. Travaillez plus et se reposer plus. Je pense que je mettrai mon 49-3. Comment expliquer ce repos alors qu'on travaille plus? Vous avez là toute la vie des saints. La vie de François de Sales aurait dû se terminer par un burn-out. Ça aurait dû se terminer par un type très tendu, etc. L'âme donnée, abandonnée, se sait accompagnée. Vous le savez, un des grands drames de notre société, c'est la solitude. Et pas simplement la solitude de ne pas avoir une épaule. C'est la solitude de ce monde qui a rejeté sa colonne vertébrale qui est Dieu. Et voilà pourquoi ce monde s'auto-détruit. Et ça ne fait que commencer. Quel est le grand drame de la souffrance? C'est quand on est tout seul à la vivre. Il suffit qu'on ait quelqu'un. Et là, tu as un quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il n'y a pas une seule de tes souffrances qui soit du No God's Land, qui ne soit pas habitée par Dieu depuis la mort et la résurrection de Jésus. Quand il vous arrive, mes sœurs, de perdre pied, votre réflexe est-il de plonger en Dieu ou de plonger dans le bénitier? Que j'aime cette parole de François de Sales à Angélique Arnaud, qui était quand même un peu coincée sur les bords, celle-là. Dieu est le Dieu de la joie. L'âme se sait accompagnée. Quand on sait qu'on a quelqu'un, on est beaucoup plus fort. La deuxième chose, l'âme livrée se reçoit de Dieu. Regardez bien, je vous ai souvent fait ce parabole imagée, qui est un peu mon histoire, hein, je vois bien. Regarde pourquoi tu es épuisé, bras de fer jour et nuit, avec les situations que tu n'acceptes pas, tu réagis au quart de tour à chaque fois, et c'est pas normal. Vas-y, continue. Voilà. Et donc voilà, un bras de fer avec le monde, avec Dieu, même si tu t'en défends, à faire des grands discours sur Dieu, puis quand tu regardes de près. En fait, le test, c'est très simple. Ce que je suis avec Dieu, la traduction, c'est ce que je suis avec les gens, avec la vie, quoi. Donc on fait un bras de fer. C'est épuisant de faire ça. Regardez quel est le bras de fer à faire. Celui-ci. Et laissez Dieu. Toi, travaille. Mais saint Paul, il n'arrête pas de dire ça. La grâce. Il y a combien de religieuses qui sont religieuses au nom de Dieu et dans le concret, sans Dieu. Elles portent tout toutes seules. Alors souvent, elles sont très généreuses, mais les conversions existent. Bon, ça vous met un peu par terre. Bon. Mais quand on a découvert après... Le autre côté de la porte, mais on ne veut plus revenir en arrière, vous comprenez? Combien de prêtres sont là-dedans? En fait, ils sont rentrés au séminaire avec un projet d'apostolat, mais ils ont mis toute leur bille dans leur savoir-faire. Et puis au bout d'un moment, leur truc, ça ne marche pas. Donc vous avez plusieurs scénarios, vous en avez qui se barrent. Vous en avez qui restent, mais ils deviennent amers. Puis vous avez une troisième solution. Il y a ceux qui se rendent à Dieu. Et là, tout est possible. Deux paroles de l'Écriture et saint François de Sales sur ce point du repos extrêmement important. Tout d'abord, je vous ai parlé d'un bras de fer. Mais le bras de fer est gagné! Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que tu peux avoir plus de paroles plus vraies? Jean 16, 33. Et ce qui est très intéressant, c'est notre saint Paul qui parle de son apostolat. Parce que lui, il bossait. Hein. Je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Je vous dis cela parce que dans l'Église, une des grandes maladies, dit le père Pascalide, c'est le burn-out parce que c'est la maladie des gens généreux. Or, un prêtre, normalement, c'est quelqu'un de généreux, une religieuse aussi, quelqu'un laïque en pastoral, tout ça. Le burn-out est la maladie des généreux parce qu'ils sont tellement généreux, mais à partir de leur générosité. Et donc, burn-out, c'est-à-dire que le feu sort, l'énergie sort. Et à un moment, c'est comme une batterie qui n'a plus du tout, il n'y a plus de jus, comme on dit. Est-ce qu'il faut rien faire? Mais non, il faut travailler en recevant son fer. Et là, il n'y aura pas de burn-out. Et voici une parole de François. Vous me demandez à quoi doit s'occuper intérieurement cette âme qui est tout abandonnée entre les mains de Dieu? Elle ne fait rien. Sinon, demeurer auprès de notre Seigneur, sans avoir souci d'aucune chose, pas même de son corps ni de son âme. Puisqu'elle s'est embarquée sous la providence de Dieu, qu'a-t-elle à faire de penser à ce qu'elle deviendra? Énormément de fatigue, frères et sœurs, dans nos vies, la mienne comme la vôtre, vient de là. Regardez, j'ai deux épaules, je crois vous aussi, à vous voir. Mes deux épaules, tu peux faire de la musculation en faisant du rameur, je suis désolé, t'es pas Dieu, hein. Pourquoi sur nos épaules c'est lourd? Parce que sur tes épaules, sans que tu t'en rendes compte, constamment, tu es en train de porter sur tes épaules à la fois les drames du passé ou tes péchés du passé. C'est déjà pas mal au niveau de tes épaules. Ensuite, tu portes le présent qui te paraît lourd, et comme si ça ne suffisait pas, tu es déjà dans les scénarios catastrophes qui sont imaginés par ta petite tête et que tu veux porter aujourd'hui. Ne vous étonnez pas d'être épuisé. Et après, mais qu'est-ce que je fais? Je prie pas assez? Je suis une mauvaise chrétienne? Ben non. Ben, porte que ce que tu as à porter. Maintenant, tu vas voir, je t'en donne pas quelques semaines pour que ça s'allège. Je ne vous cache pas qu'une des grandes joies de la prédication des retraites, c'est ça. Vous avez des gens, parfois, vous m'entendez, mais c'est régulier, régulier. Des gens qui viennent avec des grandes pesanteurs et dans la semaine de retraite, et ils le sentent physiquement, vous m'entendez. Je ne peux pas donner des cas, mais il y avait des cas qui me remontent à la tête, des trucs avec des grosses maladies, quoi. Alors après, on va faire des neuvaines, mais ça en rajoute sur la fatigue, vous comprenez? On est toujours dans toujours dans le fer, dans le bras de fer. Quand est-ce que tu vas t'abandonner et tu vas dire oui à l'ici et le maintenant? Et je te promets, tes tensions, ta colère intérieure, que tu n'oses pas prononcer colère, mais qui est là, c'est une colère. Cette impression de pas, d'être dans une prison et de ne pas voir de porte de sortie, eh bien je t'assure que tu vas trouver la porte de sortie. Il est l'heure. Je voudrais juste terminer par Maman Marie. Marie, mère de notre abandon. On a, sur les 240 homélies et plans de sermons qu'on a retrouvés de François de Sales, tenez-vous, il y en a 20 sur la très sainte Vierge Marie. Première note, si vous voulez faire plaisir à Jésus, prenez Marie. Si vous la délaissez, vous ne lui faites pas plaisir. Elle est la mère de votre vie spirituelle aujourd'hui. Arrêtez ces oppositions stériles, soi-disant théologiques, entre l'Esprit-Saint et la Vierge. Marie est la fontaine du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui, 3e, 4e, 5e vague, bientôt 42e vague, la 42e vague, je vais vous dire, ça sera simple, ça sera un renouveau dans l'esprit en Marie. C'est une certitude. Écoutez François de Sales. Nous la nommons belle comme la lune qui reçoit sa clarté de celle du soleil, car elle reçoit la gloire de son Fils. Marie ne fait pas ombrage à la Trinité Sainte. C'est de ne pas l'accueillir qui fait ombrage à la Trinité Sainte. L'évêque de Genève dit ceci: point de dévotion pour Dieu sans affection de plaire à Notre-Dame. Alors, vivre l'abandon en Marie. Voici quelques traits. Le temps est limité. La Vierge Marie est l'être le plus ajusté à la volonté de Dieu. Et dites pas qu'elle n'a pas souffert. Padre Pio dit, si on connaissait, ah, cher Père Chéreau, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Il arrive, Père Chéreau, et va arriver avec lui son cher curé. Ils sont inséparables, je peux en témoigner. Père Hubert, ils vont gentiment se rendre disponibles. Merci à nouveau, Père Chéreau, de votre disponibilité pour confesser. Donc la Vierge Marie vit l'union de volonté. Et comme elle est donnée par Dieu pour l'éducation de ta vie spirituelle, plus tu prendras Marie, plus elle te donnera d'entrer dans la volonté de Dieu, chose qui t'est difficile par toi-même. Ô bienheureuse Vierge Marie, s'écrit-il, digne mère de Dieu et fidèle dispensatrice de, toutes les grâces. Dispensatrice de toutes les grâces. Il parle comme Vatican II. Je vous supplie par l'amour de votre cher Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de m'obtenir de votre divin époux, le Saint-Esprit, une lumière céleste et un bon conseil pour connaître ce que je dois faire et comment je dois me conduire. Je voudrais rajouter, quand vous avez des nuits, des choses difficiles à vivre, hein, vos croix, elle est là d'une manière toute particulière. Il semblerait même que Dieu, quand la personne, il veut qu'elle vive une nuit pour sa purification afin de donner plus de fruits, il n'y a plus que Marie, la présence de Marie qui reste, comme vitrail du Saint-Esprit. Non pas que Dieu s'est absenté, mais oui ou non est-elle mère? Et elle n'est pas mère il y a 2000 ans, elle est ta mère. Prenez-vous au sérieux, femme voici ton fils, et fils voilà ta mère. Vous croyez que c'est assez gentil, il faudra que tu t'occupes de son linge, Saint-Jean, on sait jamais. C'est la prendre comme la mère de sa vie spirituelle. Et puis elle est aussi la reine des apôtres. Catherine Emmerich dit ça. Catherine Emmerich dit que dans les visions, elle voit la Sainte Vierge. Les apôtres ne faisaient aucun apostolat sans revenir à Marie pour savoir où ils devaient aller. Pile poil l'heure. Maman Marie, je veux bien consentir à mon impuissance, car je ne peux pas donner Dieu. Toi donne Dieu. Seul Dieu donne Dieu. Enseigne-leur. Ces quelques journées de réco ne sont pas faites pour étouffer la vie. Elles ont été faites pour prendre à bras le corps ce qui nous empêche de laisser la vie exploser en nous. Maman Marie, toi qui es une maman très douce, enseigne à chacune des frères et sœurs qui sont ici, tout particulièrement ceux pour qui c'est difficile, viens poser ta main où ça fait mal, où elles ont de la peine à dire oui. Fais-le. Je vous salue, Marie.